Bienvenue sur PFM 99.9 si vous nous rejoignez.
PFM 99.9.
Une trentaine d'émissions par semaine, beaucoup de musique en tout genre, de la littérature et des infos.
99.9 Radio PFM.
La Côte du Miracle.
Non mais c'est une blague. C'est ça que vous me proposez? Donc ça y est, on y est quoi. C'est la Cour des Miracles.
Mesdames et messieurs, c'est la Cour des Miracles. Je plaisante pas.
Oui, le son étant un phénomène vibratoire issu d'une excitation volubile, on imagine aisément la diffusion de ces dites vibrations.
Tu vas tout de même aller la voir de notre part. Et tu lui diras que la Cour des Miracles ne l'oublie pas.
Moi, c'est mon émission préférée.
La Cour des Miracles, Radio PFM.
La Cour des Miracles!
Yes, bienvenue dans la Cour des Miracles sur Radio PFM 99.9. La Cour des Miracles, c'est votre dernier agora de l'underground hip-hop, dub, électro, un peu tout ça, ça déchire pas mal. Yes! Yes, bienvenue dans la Cour des Miracles, voilà, pour ceux qui nous écoutent en fin d'année 2023, big up aussi à ceux qui nous écoutent en 2024 pour les rediffusions, on est reparti dans la Cour des Miracles et ça fait plaisir. Je suis pas tout seul dans les locaux, je suis avec Minos qui vient de Paris, il a un groupe de musique, ça déchire pas mal. Il y a aussi Tonio, il est là, big up à toi, salut Tonio.
Bonsoir, ça va, ouais, salut, ça va?
Ouais, nickel.
Merci pour l'accueil et joyeux Noël.
Yeah, c'est bon ça. Putain, le gars il est venu pour mettre l'ambiance, tu sais, genre c'est ouais. Tiens, bah, y a aussi salut à toi, t'es revenu aussi pour les fêtes, ça fait un petit moment que t'étais pas venu, mon cher Snock, le Toulousain. Donc, big up à toi, salut, ça va?
Salut, ça va?
Ouais, ça va nickel, ouais. Tu représentes Toulouse, donc c'est bien, on a
un peu Toulouse,
Ouais, on a un peu tout le monde, on a du Toulouse, on a du Paris, on a de la rageoie dans la Cour des Miracles. Et on n'est pas tout seul aussi, on est aussi en public. Donc voilà, je voulais aussi le dire, ça m'est plaisir.
Wow, je vous avais pas vu. Ouais. Ah oui, mais on est en direct de la gare de Brest.
Exactement.
Wow, ouais. Elle est belle, hein. Elle est bien interprétée.
C'est une belle gare. C'est une belle garienne.
Oh là là, mais c'est une locomotive de 1542. Mais magnifique.
Mais que dis-je, c'est un cap. Que dis-je, c'est une péninsule.
Non, pas de ref à ça. Non,
ah d'accord.
Non,
okay.
non, c'est interdit.
Bon, alors pourtant, en plus, il va en avoir des refs pendant cette émission parce qu'on va se faire une.
Oh ma couille.
On va faire une rétrospective de l'année qui vient de passer, l'année 2023, parce que c'était quand même une belle année. Je voulais quand même le dire, c'était une bien belle année. Hein. On est tous d'accord autour de cette table. Donc on en reparlera.
Franchement, elle était magnifique, quoi.
Voilà.
Alors, respect à toi d'avoir réussi à trouver quand même les trucs positifs de cette année, parce que ça ne devait pas être facile.
Ah bah attends, on n'a pas encore commencé. On va un peu temporiser, tiens.
Parce qu'on n'a pas fini, là.
Non,
allez, merci, on avait fait le tour des trucs positifs. Oh.
Non, tiens, on va un peu temporiser. Tiens, on va s'écouter Signal électrique. C'est quoi Signal électrique? C'est ça fait partie du mouvement rave party techno des années 90, au même titre que Spiral Tribe, mais au niveau français. Et en fait, Signal électrique, ils s'étaient un peu démarqués des autres à l'époque parce que en fait, ils ont fait du rave and roll. Rave and roll.
Moi aussi, je peux inventer des mots.
Hein. Ouais, non, mais c'est trop ça, ouais. Quoi. Mais allez voir sur internet Signal électrique, c'est excellent.
Et ils vont tomber sur une agence d'énergie à la con. Et on remet des tarifs moins chers.
Et en 2010, ils avaient sorti Signal électrique avait sorti Rave and Roll Ritual. Donc en fait, c'est fait avec des machines, mais pas que. Donc voilà, mais c'est du rock. Vous êtes bien à l'écoute de Radio PFM.
Merci.
99.9, la Cour des Miracles.
Joyeux Noël.
Yes. Ouais, bonne année à vous. Ciao. Bonne
pas
année.
Encore.
La cour des miracles.
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 FM, sans pub. Sans pub.
We'll be right back.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio PFM 99.9. Voilà, on est dans la cour des miracles, hein, tout simplement. On vient de s'écouter Signal électrique. C'est sorti en 2010 avec cet album Rave and Roll. C'est des mecs qui font partie de l'underground électro techno rave party. Et bon, eux, ils sont plus dans un délire un peu rock. Et je voulais vraiment passer cet album parce que j'adore cet album.
Quel album?
Rave and Roll de Signal électrique.
Ah, j'avais compris. Pourquoi tu te répètes?
Bah, je sais pas, tu me poses la question dessus, sérieux quoi. Yes. Vu que là on est en direct, hein, le 4e lundi du mois.
Yes.
Aujourd'hui on est le 25 décembre pour ceux qui nous écoutent en direct. Donc voilà.
Mais
pour ceux qui nous écoutent l'année prochaine, parce que on sera en rediffusion aussi. On voulait vous faire une petite rétrospective de l'année qui vient de passer, parce que c'était une bien belle année quand même, hein, moi je trouve.
Ça dépend des points de vue.
Il y a pas mal de choses à dire.
Il y a des choses à dire.
Mais c'était une jolie année. Donc on va un peu parler de l'année qui vient de se dérouler, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé en année 2023? Moi j'ai gardé quelques mini dates, on va dire. Hein,
Le gars il sort un bottin.
Un bottin.
J'ai pris jour par jour. Hein. Alors, le 1er janvier à 17h.
Il y a eu. Moi ce que j'ai noté, il y a eu. Ça va pas être très gai, hein. Il y a eu des tremblements de terre, par exemple tremblement de terre en Syrie dans la nuit du 5 au 6 février, l'un des séismes les plus meurtriers en 100 ans dévaste le sud-est de la Turquie et une partie de la Syrie. Secousse de magnitude 7,8 suivie d'une autre 9 heures plus tard qui fait au moins 56 000 morts dont près de 6 000 côté syrien. Voilà, je voulais le noter pour cette année.
Un peuple qui s'en est pris plein la gueule quand même. Franchement, toutes nos pensées vont à ces gens. Hein. Putain, mon Dieu, quelle horreur quoi. On est bien privilégiés hein, quand même ici. Hein.
Ça va, on est dans les Hauts-de-France. Ça va, on est cool.
Pas une région sismique particulièrement.
Non. Donc, puis il n'y a pas de guerre, enfin ça va quoi.
Ouais.
Donc,
cool. On va rester un petit peu, mais on va descendre un petit peu au niveau géographique. Il y avait monté de l'instabilité en Afrique. Avec deux coups d'État, il y avait le Niger avec des militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet en invoquant la dégradation de la situation sécuritaire. Président renversé, Mohamed Bazoum, est depuis séquestré dans sa résidence.
Il est toujours ?
À ce que j'ai vu, moi, sur mes news, c'était ça. Et puis après, t'avais aussi au Gabon, un putsch militaire qui a renversé le 30 août Ali Bongo Ondimba.
Ali Bongo, ça faisait très longtemps qu'il était là aussi.
C'était juste après une élection présidentielle largement critiquée par ses irrégularités, hein, évidemment. Ouais. Parce qu'en même temps, ça faisait depuis 55 ans qu'ils étaient au pouvoir, la famille. Donc c'est un peu chelou, quoi.
Après. Donc,
ils étaient bien, c'est tout.
À l'aise.
Un emploi stable. C'est notable de nos jours.
C'est vrai. C'était un peu notable.
Un peu de turnover chez
eux. Ouais. Tiens, une petite info bonus au niveau de l'Afrique, hein, sur la rétrospective 2023. C'est depuis le 15 avril, il y a une guerre au Soudan entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan les forces militaires paramilitaires de son ancien second, Mohamed Hamdan Daglo, qui a fait plus de 10 000 morts hein, aussi, selon une estimation de l'ONG Acled, considéré comme largement sous estimé. Mais je voulais, c'est la petite information bonus pour la petite rétro.
Comme quoi les armes françaises fonctionnent très bien finalement.
Ah bah évidemment, je vois que Simon il est en train de pleurer du sang.
je commence.
Alors on commence par des trucs évidemment négatifs, on peut pas s'empêcher de parler de ces événements qui ont marqué évidemment cette année.
Évidemment
on met un petit sourire derrière parce que c'est un jour de fête quand même, mais voilà, on peut pas ne pas penser à tous ces pauvres gens qui ont subi et qui vivent encore des horreurs cette année. Excuse-moi Antoine.
Un peu de fun, tiens, on repart en mai, on arrive en mai de l'année qui vient de passer. Il y avait le couronnement du roi Charles III quand même, je veux dire.
Il y a un petit turnover chez eux quand même. Ça faisait longtemps quand même.
Public, s'il vous plaît, public. Il n'y a que des royalistes dans le public, c'est fatigant.
Tiens, j'ai un petit truc à vous faire écouter, tiens.
Merci.
Oh, ça va.
T'as vu mes bigoudis?
Santé!
C'était pas mal leur pas à Versailles l'autre jour. Hein. Franchement, j'ai tout filmé avec mon smartphone.
Et c'est parti pour cette grande édition spéciale, donc tout au long de la journée. voir de leurs propres yeux le roi Charles. Ou du moins, apercevoir son carrosse et sa cavalerie, c'était un rêve pour bon nombre de Britanniques.
C'est un moment unique dans une vie.
On était venus aux funérailles de la reine et on avait passé un moment super. On s'est dit qu'on devait revenir.
Cette monarchie héréditaire nous coûte un fric fou. À côté de ça, des tas de gens bataillent pour s'en sortir, l'économie s'effondre et le service public est en piteux état. C'est dans ces domaines qu'il faut investir et non dans Charles et dans tout ce faste.
Plus que dans le reste de l'Europe, les Britanniques subissent une crise économique et une inflation galopante, 11% sur un an.
Yes, alors voilà, le samedi 6 mai 2023, c'était le couronnement du roi Charles III. Et moi, j'ai envie de dire que ça met du baume au cœur, hein, tout simplement. Voilà, c'est vraiment sympa de voir...
Un beau jeune homme accéder au pouvoir. Ouais. Et puis voilà, c'est grâce quand même à ses idées, à son travail. Je veux dire, c'est pas n'importe ça, ouais. Quoi. Enfin, comme quoi, voilà, c'est vraiment une belle preuve que dans la vie, quand on bosse, eh ben, on peut y arriver. Quoi.
Le mérite, absolument.
Le mérite.
Au mérite.
Ben, voilà. Absolument.
Tiens, on continue cette année 2023 en rétrospective. Il y a eu évidemment un tremblement de terre au Maroc. Ça s'est passé à 23h11. C'était le 8 septembre quand il y a eu un violent tremblement de terre de 7 sur la magnitude que l'on connaît, de Richter. Hein. Le plus puissant à avoir jamais été mesuré dans un pays. C'est un séisme qui a fait plus de 3000 morts, plus de 5600 blessés. Je suis désolé de dire ça, mais voilà, c'est tout. Je voulais m'arrêter quand même dessus. La secousse qui a endommagé plus de 60 000 habitations avec plus de 3 000 dans le Haut Atlas et ses environs, parfois très difficiles d'accès. Sachant qu'en plus, moi, j'étais parti au Maroc...
C'était
2-3 semaines après. Je me suis retrouvé à Marrakech parce que c'était un voyage que j'avais mis de longue date. Donc j'ai pu aussi voir un petit peu comment ça se passait à Marrakech. Beaucoup de personnes qui passaient en mobylette. Mobylette qui tractait des remorques de gravats dans les ruelles du souk. C'était assez spécial comme univers, hein, évidemment, comme ambiance.
Ouais, puis, on imagine que ça sera des années et des années pour réparer. Quoi. Enfin,
alors, Marrakech en lui-même, ça allait. On voyait évidemment, il y avait les stigmates sur certaines mosquées, sur certains bâtiments. Mais je trouvais que ça allait encore. Mais évidemment, je pense que dans.
T'as tout l'invisible, quoi. T'as les canalisations d'eau, les canalisations de gaz, t'as tout ce qui est invisible, quoi. Les circuits électriques. Enfin, je veux dire, il y a quand même plein de choses aussi qui doivent être un sacré bordel. Excusez-moi du terme.
En plus, c'est du travail d'arabe à la base. Hein. Moi, j'ai rien, mais bon. Je m'avance pas trop, mais bon. Hein
bon. Non, wow. Le public n'applaudit pas, bizarrement. Non, vraiment pas. Non, c'est
Allez, on continue.
Si, juste pour rebondir sur cette anecdote, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le travail d'arabe voulait dire travail de haute qualité. Voilà.
Et ouais, c'est vrai.
Ça a bien évolué dans le mauvais sens du terme. Grâce aux bonnes blagues. Et Michel Leb, salut, ça va? Voilà.
1er septembre 2023, il y a eu la réforme des retraites qui allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite.
Occuper le terrain médiatique. Le gouvernement est en première ligne aujourd'hui pour défendre la réforme des retraites, 2 jours avant la nouvelle mobilisation des syndicats.
L'opposition à la retraite monte. Plus le gouvernement l'explique, et plus les gens s'opposent. Continue à l'expliquer.
Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
Cette réforme des retraites, c'est une déclaration de guerre d'un gouvernement à son peuple. Et ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout était déjà très, très compliqué. Mais là, dire coûte que coûte, je vais faire cette réforme des retraites, c'est pas possible.
On a vu dans le reportage cette pancarte, taxer les milliardaires et non les grands-mères. Donc au-delà de la formule qui peut faire sourire, il y a un message très sérieux qui fait écho notamment au rapport d'Oxfam qui a été publié la semaine dernière. Selon l'ONG, taxer la fortune des milliardaires français à hauteur de 2% seulement permettrait de financer le déficit attendu des retraites.
Alors évidemment, retraite de 62 à 50, à 64 ans, pour ou contre, bien au contraire. Moi, je sais que, par exemple, Simon qui est là, bon, Simon, toi, t'es à la retraite depuis quoi, à peu près 3 mois, 4 mois, donc toi, t'as pas été touché vraiment par rapport à ça. Mais bon, voilà, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, je ne sais pas. Moi, tu sais, moi, travailler deux ans de plus, ça me dérange pas, vraiment pas, tu sais, dans les conditions dans lequel on vit. Donc voilà, ça s'est passé le 1er septembre, c'était sympa. Je sais pas, toi, si t'as un mot sur les retraites, Tonio, je...
Bah écoutez, moi je suis rentier, voilà, j'ai hérité de la boîte de papa, clairement, moi ça me dérange pas de travailler 2, 4, 5, 6, 7 ans de plus, quoi. Vraiment, ceux qui veulent pas se bouger, bah ils ont qu'à partir chez Poutine.
Après, t'as du patrimoine, c'est peut-être pour ça aussi, tu veux faire fluctuer ton patrimoine.
Ah non, mais moi j'ai déclaré 0 euros, j'ai la phobie administrative, donc non, moi j'ai rien déclaré, je suis à 0, de toute façon, vous allez qu'avoir avec mon expert comptable. Cahuzac, monsieur Cahuzac, venez expliquer un petit peu comment je gère un peu mon argent, s'il vous plaît.
Donc ça c'était en septembre, c'était notre fameuse réforme des retraites, et il fallait la faire, c'est ça en fait.
C'était absolument nécessaire.
Voilà, je pense qu'on est tous d'accord.
Bah, on va mieux.
On va mieux.
Bah oui.
Vous allez moins bien.
Bah non, mais.
Bah voilà.
Bah non, moi.
Bah voilà. Il a raison, il a raison.
Allez. Tiens, bah justement, tiens, en parlant de.
Il a raison.
On continue cette rétrospective 2023. Tiens, il y avait les punaises de lit. On les a vite oubliés, ces punaises de lit.
Ouais.
Punaises de lit, vendredi 6 octobre.
Qui ont créé leur propre parti politique maintenant d'ailleurs.
Réunion interministérielle qui s'est tenue sur le fléau. Non mais attends.
Reconquête.
Réunion interministérielle sur le fléau des punaises de lit. Le sujet a dépassé les frontières évidemment, parce que un an avant les Jeux Olympiques, les pays étrangers s'inquiètent que les Français sont sur cette invasion de nuisibles. Faut savoir que lors de cette réunion interministérielle, il n'y a eu aucun ministre qui était présent à cette réunion.
C'est étonnant.
Cette fois, le gouvernement envisage un plan d'urgence. L'alerte aux punaises de lit est prise très au sérieux. Elle concerne les habitations, les TGV ou encore le métro.
Alors, est-ce qu'on sait pourquoi il y a plus de punaises de lit aujourd'hui? Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France?
Alors, gros sujet, punaise de lit, justement, on va s'arrêter un bon 20 minutes sur ce sujet, parce que je pense qu'il est ultra pertinent, et en fait, il a été un peu...
Passé à la trappe.
Rebondir là-dessus, hein, moi j'ai envie de remercier ce parodieur humoriste français, dont je n'ai plus le nom, mais qui est à consonance, c'est pas... toi, tu t'en souviens...
Éric Zemmour ?
Non, c'est un humoriste.
un vrai humoriste.
Attends, je vais te le retrouver, bouge
pas. D'accord.
Non, donc il nous a fait une jolie parodie du monsieur qu'on vient d'entendre, qu'on ne citera pas, on ne veut pas de problème avec monsieur B. Quand je dis monsieur B, c'est monsieur Bérou, bien évidemment.
Oui, oui. Vincent Bérou.
Vincent Bérou, exactement.
Vincent Bolloré.
Mais non, il y a eu d'excellentes parodies, et donc bah, grâce à ces gens-là, on a
Malik
quand même...
Malik Bentala,
oui,
voilà.
Exactement.
L'heure de trop,
voilà. C'était excellent.
C'était très bon.
Et il s'est fait virer d'Internet à cause de Vincent Bolloré.
Comment
voilà.
Ça, il s'est fait virer d'Internet?
Voilà. Vincent,
ah oui, il a été licencié d'Internet.
Il a été licencié d'Internet parce que Vincent Bolloré a dit non, on ne veut pas voir ça sur les réseaux sociaux. Donc en fait, Malik Bentala a été sauvagement viré, convoqué par le CIO d'Internet, en fait, simplement.
Les règles d'hygiène, tout ça, machin. Hein.
Donc voilà, ouais, punaise de lit, pour ou contre, bien au contraire. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur notre article.
Ouais, n'hésitez pas. Notre consultante alcoolisée vous fera un plaisir de vous répondre.
Tiens, on continue cette rétrospective 2023, et pas des moindres. Il y avait, je sais pas si vous avez suivi, les gars, même vous aussi, hein, chers auditeurs, il y avait le conflit israélo-palestinien.
Jamais entendu parler.
Okay. Je sais pas.
Et en fait, ça a commencé
Les punaises de lit.
Le 7 octobre, attaque du Hamas contre Israël et début de la énième guerre, plus de 20 000 morts. Alors tiens, justement, et vu qu'on connaît pas forcément,
côtés,
on sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce que le conflit israélo israélo-palestinien. C'est vrai que c'est assez assez obscur en fait. On ne sait pas
c'est nébuleux, ouais.
très bien comment ça a été monté, etc.
Bah, puis, il est vrai qu'à l'heure actuelle, on est quand même sur un délire où il faut choisir son camp. Et au lieu de comprendre et à chercher à expliquer, on cherche plutôt à savoir qui est contre pour pouvoir le justifier.
C'est trop compliqué ce que tu dis. Non, je propose qu'on passe une page de pub.
Bah, justement, tiens, pour être objectif, moi, je vous ai fait un montage, ça dure 5 minutes.
Oui.
Et ça vous explique, mais vraiment, c'est très sérieux, ça vous explique en 5 minutes le conflit israélo-palestinien.
Pascal, prends-en ma graine.
À la fin du 19e siècle, il n'y a pas d'Israël, mais par contre, il y a bien la Palestine, une province de ce qui s'appelait l'Empire Ottoman, et où habite à ce moment-là une population arabe composée de 80% de musulmans environ, 10% de chrétiens et 10% de juifs. Il faut savoir qu'au même moment, en Europe, dans de nombreux pays, l'antisémitisme est très présent, les juifs sont persécutés, et certains vont donc fuir vers la Palestine. Pourquoi en Palestine et pourquoi pas autre part? Eh bien, c'est un territoire qui est très symbolique pour les juifs, car il correspond, selon la tradition juive, à la terre promise par Dieu à Abraham, le père du judaïsme, et à ses descendants. C'est donc à cette période que va commencer à naître un mouvement, ce mouvement, c'est ce que l'on appelle le sionisme. Concrètement, le sionisme, c'est quoi? C'est un mouvement politique qui a pour objectif de donner aux juifs un territoire national dans la région où se trouve la Palestine. On avance un peu dans l'histoire, on est désormais en 1914, c'est en 1914 qu'éclate donc la première guerre mondiale, la Grande-Bretagne rentre en guerre contre l'Empire ottoman, qui contrôle donc à ce moment-là la Palestine, et en plein conflit, eh bien le gouvernement britannique promet aux juifs de son pays un foyer pour eux directement en Palestine. En 1918, la première guerre mondiale prend fin, l'Empire ottoman s'effondre, et deux ans plus tard, c'est donc le Royaume-Uni qui prend le contrôle de ces territoires palestiniens. 180 000 juifs s'installent alors en Palestine entre 1929 et 1939, et à ce moment-là, un certain nombre d'arabes de la région, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, voient cette arrivée plutôt d'un mauvais œil. Il y a donc une résistance qui va s'organiser et des révoltes qui vont se succéder. En 1939, la seconde guerre mondiale éclate, 6 millions de juifs sont tués par les nazis, l'immigration juive vers la Palestine s'accentue, et avec ça, eh bien, les tensions entre juifs d'un côté et arabes de l'autre côté ne s'arrêtent pas dans les années qui viennent. En 1947, pour tenter de calmer la situation qui est logiquement très tendue et complexe, eh bien l'Organisation des Nations Unies va adopter à ce moment-là un plan, et ce plan en 1947, il prévoit la création sur le territoire palestinien d'un État juif, Israël, et d'un État arabe, la Palestine. Ce plan de l'Organisation des Nations Unies de création comme ça de deux États est accepté par la communauté juive de Palestine, mais il est rejeté par la communauté arabe de la région. À cette époque, en fait, en Palestine vivent 1 300 000 arabes et 600 000 juifs. Or, dans ce plan, eh bien l'État d'Israël doit récupérer 55% du territoire avec donc une population pourtant plus faible. Pour la communauté arabe musulmane à ce moment-là, c'est donc le sentiment d'une profonde injustice qui est présente, une injustice puisqu'ils estiment qu'on leur vole leur terre. À ce moment-là, donc, les accords sont nombreux, rien n'est acté, et pourtant, quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, Ben Gurion, un des leaders du mouvement sioniste, proclame la création de l'État d'Israël sans l'accord donc des autres pays arabes de la région. Au lendemain de la création de l'État d'Israël en 1948, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Liban ou encore la Syrie déclarent la guerre à Israël car ils n'approuvent pas tout simplement la création de leur État. Cette guerre, c'est ce que l'on appelle la première guerre israélo-arabe, elle a duré de 1948 à 1949, et l'objectif de ces pays, c'est de reprendre la main sur les territoires attribués à Israël pour faire en sorte de créer une Palestine arabe. Au bout d'un an, eh bien, Israël va gagner la guerre et annexer la moitié ouest de Jérusalem, une ville qui est donc pourtant, je le disais à l'instant, sous contrôle international, mais donc ce territoire va être annexé par Israël, ainsi que d'ailleurs une grande majorité des territoires qui avaient été attribués aux Palestiniens par l'Organisation des Nations Unies en 1948. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, face à cette nouvelle perte très importante de territoire, plus de 700 000 Palestiniens vont quitter leur foyer et s'exiler dans les pays arabes voisins, il y a notamment la Jordanie, la Syrie ou encore le Liban, et cet exode massif, il a un nom, la Nakba, ce qui veut dire donc catastrophe en arabe. Bref, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions au fil de ces années, mais pour résumer, à la fin de la guerre en 1949, il ne reste désormais que deux territoires qui ne sont pas contrôlés par Israël. Ces deux territoires, c'est la bande de Gaza, qui est sous contrôle de l'Égypte, et la Cisjordanie, qui est contrôlée par la Jordanie. En 1967, une nouvelle guerre éclate entre Israël et ses voisins, et c'est la guerre des 6 jours. Alors, comme son nom l'indique, la guerre des 6 jours, elle va durer seulement 6 jours, jusqu'ici c'est assez logique, mais en l'occurrence, le bilan est très très élevé. On compte environ 750 morts côté israélien et plus de 20 000 morts du côté des pays arabes. Israël va gagner la guerre et à ce moment-là prendre le contrôle de plusieurs territoires. Par ailleurs, Israël va accentuer sa mainmise sur la ville de Jérusalem, puisque le pays va occuper et annexer Jérusalem-Est et va faire voter une loi pour instaurer une réunification des deux côtés de Jérusalem, Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest, pour en faire la capitale de l'État d'Israël. 1967, guerre des 6 jours, l'autre date à retenir, c'est donc 1973, à la guerre du Kippour. Elle va éclater cette fois-ci entre Israël d'un côté et une alliance entre l'Égypte et la Syrie de l'autre côté. Et en fait, l'Égypte et la Syrie veulent tout simplement récupérer les territoires qu'ils avaient perdus depuis la guerre des 6 jours. Le truc, c'est que Israël va à nouveau gagner la guerre avec plus de 20 000 pertes du côté arabe contre environ 2500 à 7500 côté israélien, mais donc beaucoup moins. Et en l'occurrence, c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, les deux pays arabes ne sont pas complètement perdants, puisque avec cette guerre, ils ont créé un climat d'incertitude en Israël, et tout ça va pousser d'une certaine façon Israël à dialoguer avec les pays voisins. Conséquence, Israël va rendre une partie du plateau du Golan à la Syrie en 1974, puis évacuer peu à peu le Sinaï pour l'Égypte en échange de la promesse égyptienne qu'il n'attaque plus Israël. Et quant à la bande de Gaza et la Cisjordanie, eh bien à ce moment-là, elle reste occupée militairement par Israël. Il y a donc une première intifada en 1987, nouvelle date à retenir qui est assez importante, et cette première intifada prend fin en 1993 avec ce que l'on appelle les accords d'Oslo. Ces accords d'Oslo en 1993, ils vont faire naître une sorte de lueur d'espoir puisque, eh bien, le gouvernement israélien va reconnaître l'Organisation de Libération Palestinienne comme représentant du peuple palestinien, et de l'autre côté, eh bien, l'Organisation de Libération Palestinienne va reconnaître le droit d'Israël d'exister. Le problème, pour faire vraiment très simple, c'est que cet accord ne va jamais vraiment exister puisque en Israël, eh bien, les mouvements de droite vont s'opposer à cet accord, et du côté de la Palestine, eh bien, le mouvement islamiste palestinien du Hamas s'oppose lui aussi à tout ça. Résultat, il y a donc une seconde intifada qui se déroule, elle a lieu entre 2000 et 2005, et ça a été la plus meurtrière, plus de 3000 morts côté palestinien et plus de 1000 côté israélien, notamment à cause d'attentats suicides palestiniens et de frappes aériennes de l'armée israélienne. En 2005, l'armée israélienne va finalement quitter cette bande de Gaza, et deux ans plus tard, le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par beaucoup de pays, dont l'Union Européenne, va prendre le pouvoir sur ce territoire palestinien. Un blocus est alors mis en place par Israël sur la bande de Gaza. Ce blocus a pour objectif de limiter l'importation de produits sur le territoire ou encore de limiter l'alimentation en électricité et en eau pour les habitants de Gaza. Et les conséquences d'un point de vue humanitaire sont très importantes. On compte notamment un chômage qui est très important aujourd'hui sur ce territoire. Dans les années qui vont suivre, il y a donc des oppositions régulières au centre de Gaza, avec d'un côté le Hamas et de l'autre côté l'armée israélienne. Il y a une première guerre en 2008-2009, une seconde en 2012 ou une troisième encore en 2014. Et sur ces trois guerres de Gaza, on compte environ 85 morts côté israélien et plus de 3500 morts côté palestinien. Alors maintenant qu'on a vu le contexte très large et vu un peu l'évolution progressive de la situation, c'est quand même essentiel de comprendre qu'est-ce qui s'est passé récemment. Et bien, la nouvelle flambée de violence que l'on a observée en mai a commencé tout simplement avec l'ordre d'expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons, des familles palestiniennes dont les maisons étaient situées dans le quartier de Jérusalem Est. Je le disais tout à l'heure, l'est de la ville de Jérusalem est occupé et annexé par Israël, sauf que des familles palestiniennes y vivent toujours et ces familles sont donc menacées d'expulsion par des Israéliens qualifiés de colons qui prétendent qu'il s'agit de leur territoire et qui veulent s'installer à leur place. En fait, pour faire très simple, l'Organisation des Nations Unies s'oppose à ces menaces d'expulsion venant d'Israël contre ces familles palestiniennes. Ce sont d'ailleurs des menaces qui pourraient, d'après l'ONU, être considérées comme des crimes de guerre contre les Palestiniens. C'est donc après cet événement comme point de départ que sont intensifiées les tensions ces derniers jours. Il y a eu environ 10 jours d'affrontements très violents et un cessez-le-feu a été finalement conclu entre Israël et le Hamas le soir du 20 mai. Au bout de 10 jours, ces affrontements ont donc fait environ 230 morts côté palestinien, dont des enfants, et 12 morts côté israélien. Alors vous l'avez compris, les tensions sont toujours très présentes entre Israéliens et Palestiniens et à l'étranger, on craint une reprise des affrontements à tout moment. Vous comprenez qu'une part assez importante des pays du monde, dont les pays de l'Union européenne, se disent favorables à une solution à deux États, donc un État israélien et un État palestinien. Mais en fait, derrière ces mots, certains jugent que les gouvernements manquent de courage et de volonté pour réellement parvenir à la paix et parvenir à la création d'un État palestinien en plus donc d'un État israélien.
Voilà, bah c'était très digeste. Voilà, en fait, c'était Hugo Décrypte sur YouTube, en fait, qui nous explique le conflit israélo-palestinien. Alors évidemment,
donc, il n'y a rien à voir avec les punaises de lit, finalement.
Non, ça n'a strictement rien.
J'ai pas trop compris
voir.
Le rapport non plus. Mais...
Non, mais j'ai essayé de.
Ça allait trop vite.
On n'avait jamais parlé du conflit israélo-palestinien. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que ça soit digeste et en 5 minutes, là. Bah c'est super bien passé. Moi, j'ai
comme un couscous.
Non, faux. Non, faux, tu peux pas. Mince. Tu peux pas.
Mais moi je pensais plaire à Pascal. Mais ouais, non, franchement c'est cool, ça va. Peut-être c'est un petit peu trop lent, je trouve. Mais en tout cas c'est clair et détaillé.
Bah, j'aurais dû le mettre x16 au lieu de x2 pour qu'on prenne un.
On s'ennuie. Alors pas te le cacher, on s'ennuie un petit peu.
Vous êtes toujours dans la cour des miracles sur Radio PFM 99.9. On est sur une rétrospective de l'année 2023. Donc voilà, superbe son derrière. Moi j'aime beaucoup.
Absolument. Voilà. C'est magnifique.
Ça me rappelle mes vacances à Tunis en all inclusive.
Non, ça va.
Non, merde.
Ça m'évite tout de suite.
Ah, c'était très bien, ils étaient très polis pour le coup.
Et tiens, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé aussi juste après le conflit israélo-palestinien qui dure encore malheureusement. Il y a eu l'attentat à Arras du 13 octobre. Je suis obligé de m'arrêter dessus parce que nous, on fait partie d'un territoire, parce que ça nous a tous touchés, j'ai envie de dire. Voilà. Donc l'assassinat du professeur Dominique Bernard.
Dominique Bernard, ouais.
Donc.
À son âme également.
Ouais, voilà. Donc je vous ai prévu. Alors,
Excuse-moi, mais un petit clin d'œil aussi à l'horreur des politiques qui ont même pas attendu 2 heures avant de reprendre l'info, dans le bon ou le mauvais sens, peu importe, mais qui n'ont même pas eu de respect là-dessus, et les médias qui s'en sont tout de suite emparés.
Ah bah justement là, on va...
On sur vous, shame on you,
On va en parler en fait dans ce qu'on va écouter, parce que Boris, qui est journaliste à la radio, avait fait moult reportages et moult témoignages à ce moment-là. Il avait fait un entretien avec des anciennes lycéennes de Gambetta, hein, c'est réalisé lors du rassemblement qui s'est déroulé devant le Beffroi le vendredi 13 octobre à l'attentat.
Émouvant.
Et en fait, on se rend compte évidemment des premières réactions à chaud, et c'est exactement ce que tu dis, Antoine.
Quel est votre ressenti un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui sur Arras et au lycée Gambetta ?
Beaucoup de peine. Moi, je suis une ancienne du lycée Gambetta, donc beaucoup de peine. Je ressens aussi beaucoup de soutien. Je regrette. Moi, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir fait face, en fait, à toutes ces vidéos, toute cette violence qui a pu créer de l'angoisse, une forte anxiété. Et je pense que aujourd'hui, l'information, c'est bien, mais ce type d'information, elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire pour l'ensemble des personnes qui peuvent être face, en fait, à toute cette violence. Et elle n'est pas non plus nécessaire pour la famille et les proches. Je pense que des moments comme ceux qu'on est en train de vivre, ils sont importants, ils sont pleins de soutien, plein de bonne volonté, plein de bienveillance. Et c'est tout à fait suffisant. On n'a pas besoin de revivre en fait ces actes de violence encore et encore. Malheureusement, les personnes qui prennent tout ça en vidéo, ils se rendent peut-être pas compte des retours qu'ils peuvent y avoir par la suite. Et le problème se situe au niveau du relais. On ne devrait pas autant relayer ces vidéos parce qu'elles font mal. Elles font mal aux personnes proches. Elles font mal aux personnes qui se retrouvent en fait face à ces vidéos sans même le vouloir. Et elles n'aident pas à la situation.
Témoignage recueilli par Boris le jour même lors du rassemblement devant le Beffroi ce vendredi 13 octobre 2023 pour la mort du professeur Dominique Bernard lors des attentats d'Arras du fameux 13 octobre.
Donc, quelle maturité cette gamine.
Ouais, en fait, ça rejoint aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire, voilà, bon, les politiques qui reprennent directement cette chose. T'as l'impression d'être dans un fait divers. Alors, je suis désolé de dire ça comme ça, mais le fameux fait divers, comme si un chien avait été écrasé par.
La rubrique.
Ouais, voilà, cette fameuse rubrique. C'est assez poignant, je trouve, comme.
On n'a pas assez d'une émission pour malheureusement parler de la sociologie de l'être humain et de toutes ces déviances, et notamment à l'heure actuelle, mais c'est certain que heureusement, voilà, ça donne de l'espoir d'entendre des jeunes comme ça parler avec autant d'objectivité, de maturité. Ça donne un peu d'espoir pour l'avenir, parce que c'est grâce à des jeunes comme ça que voilà, peut-être qu'il y aura moins de conflits, moins d'appropriation de pas de faits divers, mais de choses horribles juste dans un but électoraliste, quoi, ou quand bien même juste dans un but purement financier. Enfin voilà, que ce soit les médias privés ou que ce soit les politiques, ils ne servent en général que leurs intérêts. Donc voilà. Toutes les condoléances à la famille de ce professeur.
On continue cette rétrospective 2023. Bon, il y aura des trucs un peu plus fun.
Ouais.
Je vais vous mettre un petit peu, mais évidemment, qui dit rétrospective dit toutes les humeurs, toutes les couleurs, tous les sentiments. Il y a eu aussi quoi, tiens, il y a eu quoi en 2023? Il y a eu le 49-3 dans sa globalité. Le 49-3, voilà, avec 23 recours en 18 mois, le gouvernement Borne, Elisabeth Borne, banalise l'article 49-3. Voilà, quelqu'un peut expliquer un petit peu, c'est quoi le 49-3?
Ouais, je veux bien, moi. Ouais.
Vas-y, dis-moi, Tonio.
C'est comme quand tu vas voir quelqu'un qui te dit, si tu prends pas ça, tu vas mourir. D'accord, mais j'ai pas envie de le prendre. Tu vas mourir. Je vous le force à le prendre quand même. Okay. Vous allez le prendre. Comme ça, vous allez pas mourir.
Simon, voilà. C'est quoi le 49-3? Peut-être quand toi, c'est quoi?
Je suis assez d'accord. C'est une pilule difficile à avaler.
D'accord.
Dans notre vie démocratique et parlementaire.
D'un point de vue.
Voilà, c'est un peu du n'importe quoi. Alors, il faut savoir que la multiplication s'applique uniquement à des lois de type budgétaire et que, hors des lois budgétaires, c'est seulement, je crois, 3 par session.
Ouais.
Ça a été créé dans un autre but, en fait, à la base.
Mais voilà.
C'est pas le premier là, gouvernement devient... qui le fait. Hein, en plus,
bien sûr. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Ouais, Antoine, il y a un record à battre et ça n'est pas encore.
C'est la gauche hein, qui a
le record. C'est Rocard, en fait. Alors, Elisabeth Borne, elle est à 23 recours. Voilà, ce qui est déjà.
C'est un beau score.
C'est une belle perf.
C'est un beau score. Il y a Michel Rocard qui est à 28. 49-3.
Bah, ils vont y arriver.
Après, faut le remettre dans son contexte. Je ne sais pas.
Oui, mais c'est mieux. Ouais.
mais pourquoi pourquoi au niveau du peuple, on est là à dire oui, le 49-3 c'est mal, le 49-3 c'est antidémocratique, alors que ça fait partie de la Constitution en 30 secondes.
Alors en gros, la majorité présidentielle n'est pas une majorité à l'Assemblée, ce qui fait qu'ils sont obligés de s'allier un peu avec n'importe qui et n'importe quoi, et c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, comme
c'est vrai, notre ami.
Et donc du coup ils sont obligés de s'allier pour faire passer leurs lois, ils sont obligés de s'allier, on l'a vu récemment, pour faire passer des lois avec des gens qui mais sans eux ils seraient pas fait élire. Non, c'est un sacré bordel politique, on est sur The House of Cards clairement. Et malheureusement, pour ma part, je suis apolitique, mais ouais, ils ont pas de choix, les mecs, quoi. S'ils veulent faire passer leur loi, ils sont obligés de passer par le 49-3 au bout d'un moment, parce que c'est une obligation. Sauf qu'il me semble que cette obligation, c'est quand cas de grosse nécessité, quand l'État est en péril, ce genre de choses.
Quand l'État est en péril.
Pour voter un budget, ouais, je dis un peu de la merde, j'ai pas le nom des lois, donc n'importe qui pourra attaquer PFM, c'est pas moi qui représente, je m'en fous.
Vous pouvez attaquer PFM à l'adresse mail pfm@radiopfm.com ou au 03 21 50 99 99. Tiens, on va continuer, on arrive vers la fin de la rétrospective 2023.
Oh, déjà
ça arrive.
On n'a pas oublié des trucs, là. En octobre, il n'y a pas un grand homme qui est décédé?
Si, il y avait Hubert Reeves.
Le penseur d'étoiles.
Mathématicien, astronome.
Astrophysicien franco-canadien. Qui est décédé, qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Qui, pour ma part, m'a fait rêver toute ma jeunesse avec sa Nuit des étoiles. Cette grande époque. Oui, je suis un boomer, mais de l'époque de C'est pas sorcier, de tout ça. Ouais. Où la science était vulgarisée, où c'était assez simple d'apprendre des choses en appuyant sur ta télécommande. Et puis que c'était vachement.
Enfin, encore un mec qui vient pas de chez nous.
Voilà.
Hubert.
Est-ce qu'on parle de la loi migration, les gars? Est-ce qu'il serait passé?
Non, mais un clin d'œil aux étoiles, parce que ce monsieur, il a donné justement plein d'étoiles dans les yeux à plein de gens. C'était quelqu'un de très pacifiste. Et en ce moment, on aurait eu grand besoin de lui. Malheureusement, on n'est pas éternel. Et il n'y a que les étoiles qui le sont. Et peut-être que lui en était une, finalement.
Ouais. Vas-y. Allez, on arrive vers la fin de cette rétrospective. Je voulais aussi m'arrêter sur du bon en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Il y a eu aussi Gérard Depardieu qui a été enregistré vocalement
Il vient pas de chez nous, lui, il est russe.
Non, il est belge.
Ah pardon. Ah, oui.
Il a été enregistré par.
Il est deux.
Il est belgo-russe, lui.
Il a quand même été enregistré par l'émission Complément d'enquête.
Là, vas-y, prends la photo. Pendant que je touche, je suis sa petite moule qui doit être bien, bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument.
Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe.
Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça. Ah merde, vous, c'est normal, c'est des grosses salopes.
Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années.
Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille, continue, tu vois, elle se gratte, là.
Mais ouais, voilà. Gérard Depardieu, big up, gros monstre du cinéma.
C'est tout.
Gros monstre de la cuisine, gros monstre, c'est tout.
Voilà, ouais, non. C'est terrible, c'est terrible, franchement. Je sais pas, Simon. Non, en fait, je sais pas, j'avais lu vite fait un article qui disait ça, j'ai pas voulu le voir, et je voulais surtout pas entendre. Comme les vidéos de décapitation. Je sais qu'un mec se fait décapiter, filmé, je vais pas cliquer dessus, je sais que ce qui s'est passé, c'est horrible.
Bah, tu peux pas y échapper au bout d'un moment.
Et là, grâce à toi, mon cher Duncan Monkey, j'ai entendu en plus, mais voilà, avec
le casque. Les oreilles
salies. C'est dégueulasse, enfin, avec sa voix de. On dirait limite un extrait de film. On pense que
c'est pas
vrai, en fait.
Mais j'ai l'impression d'être dans le grand détournement, la classe américaine, tu sais.
On dirait,
un vidéo gag, tu sais, quand ils refont les voix, là, à la télé.
Mais même quand François Damien fait le pervers, il va pas aussi loin, en fait. Enfin, c'est un truc de ouf. Mais il y a quand même des gens qui disent, oui, mais quand même, la France. Voilà. Et comme je disais, ça m'est arrivé d'en parler avec des amis il y a pas longtemps, mais. C'est vrai qu'à l'étranger, on est vachement mieux accueilli grâce à Depardieu. Combien de fois on nous dit oui. « Oh yeah, friends, Depardieu !» Non, jamais en fait. Tout le monde s'en branle de Depardieu à l'étranger, mais citez-moi un pays où on est bien accueilli parce que les gens connaissent Depardieu.
Ils rend fier la France, ok.
C'est bientôt la fin de l'émission, tiens.
Non.
Non.
Mon neveu de 7 ans, il dit non. Il dit non et ça continue.
Non.
Alors, moi, je fais comme mon neveu. Non. Voilà.
Allez, juste la petite dernière pour la rétro 2023. Moi, je voulais quand même arrêter dessus. C'est quand même la COP28 à Dubaï, conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies sur le climat.
On respire mieux.
Du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats Arabes Unis. C'était de la balle. Et pendant ce temps, la planète en surchauffe avec tous les records de température et feux d'incendie battus dans l'histoire de notre planète bleue. Jusqu'à 3 fois plus de trafic aérien aussi en 2050. Donc les perspectives sont excellentes pour nos compagnies aériennes qui estiment que le trafic sera triplé. Donc voilà, ça fait plaisir.
Un manque d'accès à l'eau potable d'ici 2050 également en lien avec tout ça. Bon, à côté de ça, on peut parler des progrès technologiques, les Émirats comptent énormément là-dessus. Malheureusement, je crois que c'est pas avec leur ville en ligne que ça, voilà, que ça résoudra le problème.
C'est vrai que la ville en ligne, on aurait pu parler.
Non, on aurait pu parler de plein de choses.
Mais peut-être qu'on en parlera l'année prochaine dans la rétrospective 2024.
Je propose qu'on reparle également et de plus de culture aussi, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'écrit, on n'a pas du tout parlé, on n'a pas beaucoup parlé de musique, on n'a pas parlé d'auteur,
cinéma,
hein. on a parlé d'un port, mais on n'a pas parlé de voilà. Donc voilà, ouais, si, ça serait bien quand même qu'on parle aussi des choses chouettes que des gens ont pu rêver, écrire et penser et créer.
Ouais, l'année prochaine, on fait une rétrospective que des trucs positifs dans l'année. Bon, ça sera peut-être une émission d'un quart d'heure, mais...
La Cour des Miracles, c'est évidemment sur les ondes sur 99.9, ouais. Mais pas que, c'est aussi sur www.radiopfm.com. Vous pouvez retrouver aussi le podcast sur le site, sur le Facebook. Rediffusion quand vous pouvez, quand vous nous entendez, et puis tout ça. En attendant la prochaine émission, moi je vous dis, chérissez votre famille, vos amis, tous ceux qui vous entourent. Ouais. Un dernier mot, messieurs.
Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde.
Il serait temps.
Allez, on se finit avec un mec du groupe Ezekiel, le groupe Ezekiel, groupe français.
C'est
et en fait, il y a un mec qui a sorti un album solo qui s'appelle Zero Gravity. C'est que des instruments analogiques enregistrés sur de l'électro. C'est tout neuf, c'est tout frais, c'est tout beau, c'est pour vous. C'est Radio PFM, la Cour des Miracles.
Gros bisous.
Joyeux Noël.
La cour des miracles.
FM sans pub.
La cour des miracles.
Sans pub.